À nouveau avec vous, Jean-Roger Billon, dans moins de 5 minutes, le dialogue des religions présenté par Eric Manirakiza, mais avant un résumé de l'actualité. Ce 11 septembre marque le 23e anniversaire des attentats terroristes de 2001. Près de 3000 personnes ont perdu la vie dans les attaques des tours jumelles à New York, au Pentagone, près de Washington et à Shanksville en Pennsylvanie. Les détails sur cette journée de commémoration avec Dilly Dico.
Les proches des victimes des attentats du 11 septembre 2021 se sont réunis ce mercredi sur les trois sites des attaques terroristes. Ils ont déposé des fleurs et des gerbes en mémoire des personnes qui ont péri lorsque des djihadistes du groupe Al-Qaïda ont pris le contrôle d'avions commerciaux en les écrasant sur les tours du World Trade Center, une partie du Pentagone et une aire en Pennsylvanie. À New York, des cloches ont retenti dans la matinée au mémorial des attentats pour marquer le moment de l'impact des avions sur les tours. Ce moment tragique de l'histoire des États-Unis a modifié la politique étrangère et sécuritaire du pays qui s'est lancé dans la guerre contre le terrorisme. Ces événements ont profondément changé l'état d'esprit de nombreux Américains et le monde entier en proie à l'extrémisme. Aujourd'hui, 23 ans après, ce sont les nouvelles générations, des enfants et des adolescents nés après les attentats qui portent le flambeau et font le devoir de mémoire en lisant les noms de près de 3000 victimes. Cette année, Joe Biden, l'ancien président Trump, la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, ont également rendu hommage aux victimes du 11 septembre.
Le pape François est arrivé à Singapour ce mercredi après-midi, dernière étape de sa tournée asiatique, où il devrait mettre l'accent sur le dialogue interreligieux et sur la présence de l'Église catholique dans une région où elle est très minoritaire. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée en Asie du Sud-Est et en Océanie, son plus long voyage à l'étranger à ce jour, qu'il a conduit au Timor oriental, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Indonésie. Il rentrera à Rome le 13 septembre.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Mali, les autorités ont suspendu pour 3 mois la diffusion de la chaîne francophone TV5 pour avoir, selon elles, manqué d'équilibre dans le traitement d'une information. La haute autorité de la communication reproche à TV5 Monde d'avoir fait état dans son journal Afrique de la mort d'au moins 15 civils dans des frappes de drones à Tinzawaten dans le nord du pays sans prendre en compte la version de l'armée malienne. Le premier ministre burkinabé Apollinaire Kelem de Tambela a évoqué aujourd'hui un drame pour qualifier l'attaque djihadiste qui a visé Barsalogho il y a près de 3 semaines, causant la mort d'au moins 400 civils selon des sources locales. Le premier ministre est sorti de son silence lors d'une cérémonie de levée des couleurs sans donner de bilan. Cette attaque perpétrée le 24 août est la plus sanglante que le Burkina Faso, confronté aux violences djihadistes depuis près de 10 ans, a connue dans son histoire. Aucun bilan officiel n'a été communiqué, mais un collectif de ressortissants de la zone a fait état d'au moins 400 morts. En République démocratique du Congo, 63 prisonniers accusés d'avoir commis des viols sur des détenus lors de la tentative d'évasion qui a fait plus de 130 morts début septembre dans la plus grande prison du pays ont comparu ce mercredi devant un tribunal militaire. Ils étaient accusés de destruction, incendie volontaire, actes de terrorisme et viol, a déclaré Maître Michel Mafta, un des avocats de la défense, commis d'office le centre pénitentiaire de Makala, construit sous la colonisation belge pour une capacité de 1 500 prisonniers, mais accueillant aujourd'hui près de 10 fois sa capacité et régulièrement sous le feu des critiques des organisations de défense des droits qui dénoncent des conditions de détention inhumaines. Au Kenya, le trafic aérien était perturbé aujourd'hui à l'aéroport international de Nairobi par une grève des personnels contre le projet du gouvernement kenyan de confier au groupe indien Adani l'agrandissement du site en échange d'un droit d'exploitation de 30 ans. Selon le syndicat, l'aéroport est rentable. Les taxes sur le fret et les passagers perçus par l'État kenyan représentent plus de 5% du PIB. Et ce projet menace les emplois et n'apportera aucun bénéfice aux contribuables kenyans. Jean-Roger Billon, dans quelques instants, Eric Manirakiza sera avec vous pour le dialogue des religions. À tout à l'heure.